Saint-Esprit.
Projet de Jésus-Christ selon Saint-Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer. Mais là, leur sang a subi les sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sang? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous que c'était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier dans toute sa vigne. Il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année, le temps que je veux mèche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le trouveras.
Attends-moi la parole.
Mes chers amis, pour l'adresse d'aujourd'hui, je me suis dit que je vais progresser graduellement en me servant des lectures telles qu'elles sont présentées dans la liturgie de la parole d'aujourd'hui. Quand je m'arrête à la première lecture, je dirai du livre des Exode, un extrait qui est très important dans le dessein de Dieu, dans la révélation de Dieu. Je me dis en fait, quand Dieu donne son nom à Moïse, et quand on se base sur la mentalité biblique, donner son nom, c'est livrer son identité. Dire son nom, c'est en fait s'offrir, c'est se donner. Alors quand Dieu donne son nom à Moïse, que Dieu se met à la disposition de Moïse, que Dieu se livre à Moïse, que Dieu se donne à Moïse. Je reste convaincu qu'à chaque dimanche, quand nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur vient à nous et il se révèle à nous. Il nous donne son nom. Parce qu'on veut se mettre à notre disposition, à notre service. Il est amour. J'aime beaucoup l'explication du Père Zondel. Il dit que Dieu, en fait, est amour. C'est-à-dire, il est perpétuellement un don. Il est perpétuellement en instance de se livrer, de se donner à nous. Et Dieu veut se mettre à notre disposition. Il veut écouter nos demandes. Il veut écouter ce dont on a besoin. Et il veut nous élever davantage. Regardez, quand nous étions plus jeunes, nous avions à l'école primaire, et pour qu'on s'adressait à une petite famille, il y a un petit garçon, la première chose que je voulais savoir, c'est un petit garçon. Alors quand tu avais la petite fille, le garçon, ah, ils sont battus. Alors là, ils étaient. Maintenant, je peux commencer même à l'appeler, je peux commencer à m'approcher de la personne. Donc, donner son nom, c'est se donner son identité. Moi, je me dis, ici à Saint-Gabriel, nous avons notre nom. Et ce sont les seuls noms de notre paroisse. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous révéler notre nom. Prenez votre butin au milieu de la page. Alors, si on vous demande quel est votre nom, comme Moïse demande à Dieu, quel est son nom? Et bien, si on vous demande quel est le nom de Saint Gabriel, le nom se trouve au milieu de la page en haut, dans notre énoncé de vision. C'est ça notre nom. Nous allons lire notre nom ensemble. La paroisse Saint Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse où les enfants, les adolescents et les adultes vivent les valeurs évangéliques de l'accueil, de l'entraide, du respect et du service dans la joie et l'amour de Dieu. Saint Gabriel encourage l'ouverture d'esprit, la croissance spirituelle et l'engagement de ses membres, qui va au-delà des célébrations de
théologique afin de mieux vivre sa mission, faire connaître et aimer le Christ.
C'est ce que nous sommes. Et les personnes qui sont ici pour la première fois ou sont nouvelles dans notre paroisse, et votre paroisse, c'est celle-là. Ce sera notre nom. Et aujourd'hui, nous avons deux invités spéciaux. J'ai devant ici Bianca et puis Rémi. Ils vont nous parler à la fin de la célébration. Moi, je suis heureux qu'ils sont ici. Hein, comme ça, ils entendent notre nom. Ils savent qui nous sommes. Comme ça, ils connaissent notre nom. Voyez-vous, quand je me base à la deuxième lecture, je ne vais pas m'arrêter sur la deuxième lecture maintenant parce que je vais m'en servir pour ma conclusion. Alors, je saute. Sur l'évangile, je vais dans l'évangile. L'évangile, en fait, j'ai le scène dans deux. La première partie est une partie qui parle de tragédies qui ont eu lieu, de deux tragédies qui ont eu lieu à l'époque de notre Seigneur. La première, vous l'avez entendu, c'est que Pilate, à un moment donné, il a dû mettre à mort certains Galiléens qui présentaient le sacrifice au temple. Alors les gens étaient choqués. Finalement, il y avait quand même la question qui se posait, comment ça se fait que ces personnes-là aient été tuées de cette manière-là, qu'ils aient connu une telle mort? Est-ce que ces personnes-là étaient des pécheurs, des pécheresses, étaient plus coupables que les autres? Alors c'est un peu la mentalité ancienne. Alors, on pose la question à Jésus, il dit, écoutez, mais non, ce n'est pas parce que vous pensez qu'ils ont été plus pécheurs du tout. Il n'y a pas question de malédiction de Dieu ou de punition de Dieu là-dedans. Et il continue, il donne lui-même un autre exemple qui a eu lieu à son époque. Il dit d'ailleurs, la tour de Siloé qui est tombée, qui s'est écrasée, qui est 18 personnes qui ont connu la mort. Ces personnes-là ne sont pas plus coupables que vous autres tous les jours. Mais ces événements-là sont arrivés pour nous inviter à la conversion, pour nous inviter au changement de cœur, pour nous inviter à comprendre mieux qui nous sommes, à comprendre mieux cette terre. Regardez, on a repris dans les médias l'affaire de l'équipe de joueurs de hockey junior en Saskatchewan, des Broncos. Puis en fait, malheureusement, il y a une année, ils ont connu un accident d'auto, d'autocar, et il y a eu 15 joueurs qui sont décédés, 14 de blessés. Alors l'affaire est passée en cours dernièrement, je pense qu'on commence à reprendre. Alors quand on réfléchit sur ces choses-là, j'ai écouté encore la télévision des parents qui encore en pleurent, et avec raison. Tu sais, ton garçon joue, il est jeune, et il fait du hockey. Il va jouer ailleurs, il te revient mort. Alors je te pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu, comme les gens disent? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait de correct, que ce malheur m'arrive à moi? Comment ça fait que les Broncos perdent tout d'un coup 15 joueurs? Est-ce que l'équipe de hockey des Broncos est plus coupable que les autres équipes de hockey dans ce monde? Il me semble qu'il faudrait plutôt prendre l'orientation de notre Seigneur. Ce n'est pas une affaire de punition, ce n'est pas une affaire de gens qui sont plus coupables que les autres. Ces événements pour nous autres là, c'est arrivé en Saskatchewan, c'est pas arrivé à Ottawa, c'est pas arrivé en Ontario. Pourquoi? Alors on se pose la question, on dit, en fait, nous sommes des gens limités. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Aujourd'hui, nous nous voyons tel que nous voyons, on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est pas pour de la peur. Simplement pour dire que quand les événements semblables arrivent, ça permet de nous ouvrir davantage, de nous convertir, de comprendre davantage ce monde, d'apprécier davantage ce que nous avons maintenant. Et d'ouvrir nos cœurs aux souffrances des autres, d'être sensibles aux malheurs des autres, d'ouvrir notre cœur pour prier pour les autres. C'est pour ça que ces événements arrivent et ils viennent nous chercher quelque chose de bon en nous, ils viennent nous élever. Vous l'avez entendu dans les médias, ça fait déjà une semaine que le Mozambique a connu un cyclone dévastateur. On parle de 150 000 de blessés, il y a autour de 380 000 sinistrés et il y a eu autour de 300 morts avec le cyclone là. Il y a beaucoup de souffrance maintenant au pays, dans les pays les plus pauvres en Afrique. Encore là, je te pose la question, mais comment ces choses-là arrivent, surtout dans un pays encore parmi les pays les plus pauvres? Est-ce que prenons la réponse? Non. Est-ce qu'il y a une affaire de punition de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu est en train de regarder à qui donner un coup de massue? Non. L'événement là arrive pour que nous réfléchissions, pour que nous pensions. D'abord, il n'y a personne qui choisit son genre quand il naît. Il n'y a personne qui choisit sa mère, son père quand on naît. Il n'y a personne qui choisit sa race quand on vient au monde. Il n'y a personne qui choisit son pays quand on vient au monde. Tout est donné. Alors on regarde, tout ça nous fait penser, nous fait réfléchir. qu'en fait, nous sommes des dons de Dieu. Et quand des malheurs arrivent chez les autres, ils disent, écoutez, ça pouvait arriver chez nous aussi. Alors on porte les autres, on fait plus attention aux autres, on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir les autres, comment on peut se convertir. En fait, ce que le Seigneur veut nous dire, ces événements malheureux viennent nous chercher, viennent nous relever, viennent nous ouvrir davantage aux autres, pour que nous fassions davantage attention aux autres.
J'avais travaillé à la cathédrale d'Ottawa durant 3 ans. Là, je me rappelle plus quelle année cette chose-là est arrivée. Toujours est-il qu'une fois, à la veille de nouvel an, alors que j'étais tout seul, je suis déjà la nuit, je me rends compte que tous les égouts de la cathédrale vont commencer à se déborder. Et il y avait de la saleté partout, même dans la salle d'accueil, là, le sous-sol. Moi, j'étais seul. Comment ces choses-là peuvent arriver un jour pareil? Alors que tout le monde est chez soi, à ce moment-là, le soir, je voulais aussi partir dans ma famille, bloqué. Alors, je te pose des questions, tu commences à te blâmer toi-même, comment tu fais des réponses, c'est quelque chose de correct, et je partais. Comment ça se fait que ça arrive à ce moment-ci? Et puis, qu'est-ce que je vais appeler à cette heure? Alors, j'ai commencé à faire des appels, et puis, à plusieurs compagnies. Alors, j'ai atteint cette compagnie-là. Le monsieur était très disponible, il dit non, non, je veux venir vous donner un coup de main. Il est venu avec quelques grosses citernes pour aspirer, hein, tout ce qui va passer, tout ce qui est visible. Et c'est comme un calme, si gentil, il a tout nettoyé, il a mis tout en ordre. Il me disait, avec peur, vite, le lendemain on va faire la messe, puis avec la puanteur, je rentre dans l'église, comment ça va être demain? Alors il a tout nettoyé, il a mis de l'ordre. En regardant ce monsieur travailler dans la paix, dans la tranquillité, ça m'a converti. Moi, j'étais bouillonnant à l'intérieur. Et puis, en voyant ces messieurs, j'ai senti la paix en moi. Cet événement-là, avant, à la place de voir tout en noirceur, j'ai commencé à voir autrement les choses. Et le monsieur est parti. J'ai vu les choses autrement. Il y avait du positif, il y a eu quelque chose. On a résolu le problème, allons de l'avant. Il me semble que c'est vrai. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Nous devons nous éclore aujourd'hui, mais quand on réfléchit, ça peut nous remonter. Hein, on sait ce qui vient d'arriver en Nouvelle-Zélande, ce qui vient d'arriver en Hollande avec les fusillades. Tout ça permet, par exemple, aux Néo-Zélandais de s'ouvrir davantage, de s'aimer davantage, de grandir davantage. Ils ont changé la loi des armes, etc., etc. Il y a des choses qui arrivent et ça nous relève. Voilà en ce qui concerne la première partie de l'Évangile. La deuxième partie, ça va, je ne vais pas m'étendre dessus. En fait, on parle de la patience de Dieu. Parce que la vigne ne donne pas de fruits. Je dis, écoutez, ça fait 3 ans que j'attends la chaleur. Écoutez, je vais brûler et puis on recommence avec une autre. Le responsable dit non, on va donner encore une chance. Il y a encore une année, mais ça va donner des fruits. Parce que ce que j'ai entendu à la radio, encore là, je ne porte pas de jugement. J'entendais une femme qui donnait un témoignage à la radio la semaine passée. Ici, à Ottawa. Et puis, elle disait que, en fait, dans sa vie, elle a eu des difficultés à tomber enceinte. En tout cas, elle a essayé plusieurs fois avec son mari. Et puis, ça a pris 5 ans. Voilà qu'elle est tombée enceinte. Alors, elle et son mari, quand on est parti voir le médecin, ils consultent le médecin regarde, fait les examens, il était revenu. La semaine prochaine, on va faire des examens, je vais vous dire quoi faire, comment continuer avec votre état. La semaine après, le couple est revenu voir le médecin. Alors, la dame explique elle-même à la radio, disant que, après coup, je me suis rendu compte que ce médecin-là n'avait pas lu notre dossier avant de nous recevoir. Je dis que la femme et le mari entrent, le médecin s'assoit, bienvenue, il ouvre le dossier. Il ouvre grandement les yeux. Il dit, oh, ça alors. Le couple ne comprend pas ce qui se passe. Alors le médecin dit, écoutez, vous n'avez pas été chanceux avec votre grossesse. Regardez, l'enfant sera trisomique. Donc il aura le syndrome Down. Alors écoutez, ce qu'il faudrait faire, c'est commencer à penser comment quand on prend des rendez-vous à venir pour mettre fin à la grossesse. Alors elle là, elle tombe en pleurs, elle ne comprend pas comment ce docteur-là commence déjà à parler de ces choses-là. En fait, quand elle était interviewée à la radio, voici en fait le problème. C'est que plusieurs femmes, plusieurs familles ici, Ottawa, en Ontario aussi,
sont en train de se mettre ensemble pour pousser le port du hijab, pour pousser le gouvernement à ce que quand on parle des enfants trisomiques et quand on annonce leur naissance, qu'ils ne soient pas toujours des choses négatives qu'on relève, mais qu'on parle aussi des choses positives, disait la dame. Alors, la journaliste demande, madame, des choses positives, qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde, quand je suis sorti du bureau de médecin en pleurs, je savais quoi faire. Je me suis dit, mais non, moi je ne vais pas mettre fin à ma grossesse, ça m'a pris 5 ans. Moi je ne vais pas laisser partir l'enfant. Je vais d'abord aller rencontrer les personnes qui ont les enfants trisomiques, les familles qui en ont, ça existe. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie rencontrer, elle a parlé avec tout le monde, et s'est sentie revigorée, elle a vu qu'il y avait des choses positives. Alors c'est que je dis, il faudrait qu'on parle aussi des choses positives quand on a des enfants trisomiques. Je ne demande pas qu'on efface les négatifs, mais je veux qu'on relève aussi des points positifs. Mes amis, je crois que des fois, quand les gens viennent nous voir, ils veulent avoir un message d'espérance, un message de relancement, un message de soutien. Mais je reste convaincu que quand tu lis la Bible, quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu sort de son mystère, comme on l'a chanté, il nous tend la main, il vient nous parler, ce n'est jamais pour nous brimer, ce n'est jamais pour nous écraser. Dieu, quand il se révèle, quand il se donne à nous, c'est pour nous relever toujours, toujours. Quand on écoute le message de l'évangile, quand on écoute une prédication, normalement, on doit se relever. On doit avoir le message d'espérance. On doit sortir avec des ailes. On doit sortir avec la joie. Pour dire que Dieu nous supporte, Dieu nous soutient. Notre Dieu est un Dieu patient, est un Dieu qui donne du positif, un Dieu qui nous lance. Conclusion. Alors ça, c'est la deuxième message. Eh bien, on parle de Jésus comme le roi. Hein, le peuple d'Israël faisait sa marche vers la terre promise et dit Paul, en fait, s'appuyait sur le rocher, donnait de l'eau, qui nourrissait ce peuple-là pour marcher. Alors nous autres là, nous sommes en train de faire notre pèlerinage, nous sommes en train de faire notre montée vers Pâques. Alors dans notre vie de désert, nous avons besoin de nous appuyer sur ce rocher-là, Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous appuyer sur sa parole, justement pour nous lancer, pour nous propulser, aller toujours de l'avant. Sans lui, on ne peut pas, on ne peut rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore une fois renouveler notre attachement à Jésus-Christ, notre foi à Jésus-Christ, pour lui dire, Seigneur, nous nous appuyons sur toi, viens nous relever, viens nous aider à nous convertir, à changer, à devenir de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes, pour que, à Pâques, nous nous illuminions davantage de ta lumière et que nous soyons des témoins dans ce monde d'aujourd'hui. Amen.